mais je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Raphaël Imbert. Alors, avec 3 jours de retard, on va lui souhaiter bon anniversaire. Hein, puisqu'il vient de fêter ses 40 ans.
Tout à fait.
C'est un Provençal. Un Provençal qui s'est passionné pour, figurez-vous, l'entomologie. Donc, vous auriez pu avoir aujourd'hui une conférence aussi sur l'entomologie. Mais non, finalement, il a choisi la musique. Il a choisi la musique. Et il a vécu donc dans un monde aussi, je crois, qui était très, très favorable au milieu artistique. Et je crois, alors si j'ai bien compris, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un voisin qui a joué un jour du saxophone et tu as eu envie d'essayer. Tu avais 15 ans. Voilà. Et donc, à partir de là, il s'est mis à jouer tout seul. Tu es autodidacte.
Oui.
Pour cet instrument, voilà. Et là, ça a été réellement, je crois, le début d'une longue histoire d'amour, puisque tu n'as pu quitter le saxophone depuis ce jour-là. Alors ça, c'est pour le côté pratique, mais il y a aussi tout un côté théorique, puisque Raphaël s'est inscrit dans la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, qu'il y a rencontré des musiciens régionaux, qu'il a donc commencé à jouer avec eux très régulièrement, et puis qu'il a remporté ensuite le premier prix du conservatoire de Marseille, donc avec Jean-Jacques Elanguet.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ensuite, il a monté 2 groupes, alors le Hemley Orchestra, c'est ça, et oui. Le Axas Imbert Consort.
Oui. C'est bien comme ça, avec l'accent.
J'hésite, hein, entre français et anglais. Et donc, avec lesquels il s'est produit dans de très nombreux festivals, à Vienne, à Nice, à la Fiesta des Suds, au Théâtre des Salins, voilà. Ensuite, il a fondé, alors, je crois qu'il y a 10 ans exactement, c'est ça ?
Tout à fait.
Le Nine Spirit. Et le Nine Spirit, c'est donc un orchestre qui joue très, très régulièrement pour jouer donc les musiques sacrées de Duke Ellington, John Coltrane, Pharoah Sanders, Albert Ayler et bien d'autres, et aussi réaliser des spectacles qui s'inspirent de textes fondamentaux tels que celui de Martin Luther King, par exemple, des textes de Martin Luther King, voilà, qu'il a mis en scène. Ensuite, il a mis au point un projet d'étude sur le sacré dans le jazz et il est devenu lauréat de la Villa Médicis hors les murs. Il a remporté le 28e concours national du jazz de la Défense en juin 2005. Et Raphaël compose également pour le cinéma, la télévision, voilà, dans plusieurs projets. Il a réalisé avec André Rossi et Quatuor Manfred un album qui s'intitule Back Coltrane, qui s'est fort bien vendu, est-ce que j'ai compris, plus de 12 000 exemplaires. Il a aussi élaboré une méthode d'improvisation pour ensemble de musique de chambre, voilà, qu'il a proposé à Musique en Voûte et Pro Quartet. Donc, en 2005, le Nine Spirit a changé radicalement de nom,
oui.
Puisqu'il s'est appelé la compagnie Nine Spirit.
Voilà. C'est radical.
Donc, qui est très, très active. Et surtout, Raphaël Imbert a intégré l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, sous la direction de Jean Janin, et il s'est mis donc à étudier réellement la musique et à faire des projets, et il a été missionné à ce titre pour un séjour d'études dans le sud des USA, voilà, dans le cadre d'un grand projet de recherche, vous savez, ces ANR, qui sont les très, très grands projets du ministère, voilà, en partenariat avec le CNRS. Alors, il joue aussi dans bien d'autres orchestres. Je ne peux pas tous les citer, je crois. La liste serait longue. John Chiquet, Evan Parker, Joe McPhee, Latika Big Band d'Archie Shepp, Jazz à la Villette en 2012, voilà, tout un tas de... Et puis, le nouveau label d'Harmonia Mundi, Jazz Village, voilà. Alors, nous sommes ici tout de même aussi pour parler, et surtout pour parler de ce livre, donc Jazz Suprême, initiés, mystiques et prophètes. Alors, je voudrais vous en dire quelques mots. C'est vraiment le premier ouvrage sur la question. C'est le premier ouvrage qui soit entièrement consacré au lien entre jazz et, je dirais, initié, et donc également franc-maçonnerie. Et c'est un peu à ce titre, bien sûr, que je connais Raphaël Imbert, pour m'être intéressée moi-même à l'histoire de la franc-maçonnerie. Mais je dois dire que c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, puisque j'avais cherché, justement, quand moi-même j'écrivais une histoire sur la franc-maçonnerie, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait du côté du jazz, puisqu'il y avait des liens. Et donc, tu avais écrit un article, un article qui a été publié ensuite en 2008, « Jazz et franc-maçonnerie, une affaire d'initié ». Et cet article, il est aussi très largement disponible sur Internet. Donc, je crois qu'il a été très consulté, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le premier livre en tant que tel qui soit consacré au sujet. Donc, trois parties. La première partie, jazz et spiritualité, les différentes voies. La deuxième partie, jazz et franc-maçonnerie. Et la troisième partie est axée sur John Coltrane. Voilà. Alors, je crois que ce qui est vraiment passionnant, c'est que, Raphaël, tu explores vraiment le lien particulier entre musique, jazz, spiritualité. Et c'est vrai que c'est une chose que nous avons parfois du mal à comprendre en France, puisque bien nous sommes, je dirais fort heureusement, très laïques. Hein. Et donc, on a un peu de mal à comprendre justement qu'il puisse y avoir ce lien parfois dans la société américaine entre, je dirais, progressisme et religion. Voilà, progressisme et religion, progressisme et spiritualité. Je ne pense pas faire une digression, mais je crois que ce sont des choses qui sont importantes à noter, puisqu'il faut dire que, s'il y a laïcité en France, c'est qu'il y a aussi une Église catholique qui a quand même été parfois assez dogmatique. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout cette tradition. Les catholiques sont minoritaires. C'est donc une tradition protestante, avec forcément une très grande diversité religieuse. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis se sont quand même construits au départ sur cette notion de liberté religieuse. Donc c'est une dimension qui est très importante, et en particulier, comme tu l'as bien montré, aux États-Unis, chez les Noirs américains. Parce qu'il faut bien dire qu'avec la franc-maçonnerie, les églises ont été vraiment les premières institutions à lutter contre les discriminations aux États-Unis. Et ça, c'est un facteur qu'on ne connaît pas vraiment, je crois, en France. Et c'est donc, voilà, ceci pour expliquer donc peut-être le poids réellement que tu accordes à cette notion de spiritualité et de religion pour ces musiciens noirs américains. Alors donc, je le disais, nous nous sommes connus épistolairement, puis par téléphone, et grâce à la librairie Mola, et à cette invitation, c'est donc la première fois que nous nous voyons, voilà, que nous nous rencontrons. Donc je suis ravie. Alors effectivement, nous avons eu l'occasion d'échanger pas mal de choses. J'en profite, alors vous me pardonnerez cette pointe de narcissisme, juste pour vous annoncer que mercredi prochain, je vous donne rendez-vous ici même, enfin plutôt au troisième étage des salons Mola, pour vous parler justement des Noirs et de la franc-maçonnerie américaine. Noirs et francs-maçons, voilà, à 18h. Mais je crois que ce qui est vraiment très très important, c'est de voir ce lien très étroit qu'il y a entre franc-maçonnerie et jazzmen. Puisqu'un très grand nombre de jazzmen ont été francs-maçons et ont justement appartenu aux grandes loges Prince Hall. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne faut pas se voiler la face et qu'il y a eu réellement ségrégation au sein de la franc-maçonnerie américaine, qu'il y a eu des grandes loges blanches, des grandes loges noires, et que même des artistes aussi prestigieux que Duke Ellington ou Coltrane, ont été accueillis dans les grandes loges noires de Prince Hall et non pas dans des grandes loges blanches, parce que les choses n'ont évolué que très récemment. Elles ont évolué, certes, je vous en parlerai un peu peut-être si vous venez la semaine prochaine, elles ont beaucoup évolué même, mais dans les États du Sud, il y a encore une très grande ségrégation. Alors, ce Prince Hall, qui était-il, justement, celui qui a donné le nom à cette grande loge? Et bien, c'était un esclave affranchi qui vivait à Boston, qui s'est beaucoup battu pour justement que les esclaves, les affranchis ne soient pas repris en esclavage, mais c'était souvent le cas. Mmh. Et donc, il y a eu des pétitions, et on trouve le nom de Prince Hall et de certains francs-maçons à l'époque, sur ces pétitions, réclamant vraiment la fin totale de la reprise d'esclaves, comme ça, à Boston, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, il n'est pas question de jazz et de maçonnerie, nous devons attendre le début du XXe, mais j'en parle parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage, c'est que vraiment, il est très, non seulement il est contextualisé, mais je crois que tu as le souci, Raphaël, de te replonger dans l'histoire, replonger dans l'histoire des États-Unis et de montrer justement d'où viennent ces jazzmen, quelle a été leur inspiration, pourquoi ils ont pu justement prendre leur essor dans cette franc-maçonnerie américaine de l'époque. Je crois que tu as très bien aussi su faire la part des choses, c'est-à-dire sans aucun doute, John Coltrane, Count Basie, Nat King Cole, Duke Ellington ont été francs-maçons. Pour Louis Armstrong, il y a un petit doute. Même on pense qu'il n'a pas été initié en fait lui-même, mais il a joué dans des concerts. Il a joué dans des concerts. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait des funérailles maçonniques, on faisait venir des musiciens. Et Louis Armstrong a témoigné. Et il est allé dans un certain nombre de cortèges comme ça funéraires. Il raconte tout ça très bien dans ses mémoires. Et il dit d'autre part que son père avait été membre d'une société de secours mutuel proche de la franc-maçonnerie. Voilà, pour Louis Armstrong. Et puis tu rétablis très bien aussi la vérité sur Duke Ellington. Tu aimes bien dépoussiérer aussi, démystifier, parce que tu montres bien que la fameuse chanson « I'm beginning to see the light » n'a absolument rien de maçonnique. En fait, c'est pas du tout certain. Alors, bon, vous savez, c'est vrai que les francs-maçons aiment bien faire ça aussi. Ils aiment bien aller trouver des tas d'influences et alors dire que ça, c'est maçonnique ou ça ne l'est pas. Mais non, ce n'est pas du tout son initiation qu'il raconte dans cette chanson, ou alors c'est une autre initiation, mais pas du tout. Et vraiment, donc tu as bien montré que, avec humour, que c'était une chanson d'amour, mais rien de plus. Mais donc, c'est ça qui est important, c'est que je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas se contenter de répéter ce que d'autres ont dit, et tu es toujours allé à la source pour vérifier ces informations. Donc voilà, je terminerai pour te laisser la parole et te dire que ce qui est remarquable, c'est que je crois que Raphaël a réussi à concilier la démarche de l'historien, qui est donc rigoureuse, qui s'appuie sur des sources, qui va vérifier ce qu'il dit, qui ne se contente pas de répéter, et puis celle de l'artiste, du musicien, qui a donc une grande sensibilité. Voilà. Et donc, Raphaël, à toi.
Merci. Merci beaucoup. Je suis très, très honoré d'être ici, déjà, parce que je disais à mes nouveaux camarades de la librairie Mola, c'est la première fois que je passe plus de 2 heures à Bordeaux, en fait. Et j'ai toujours eu l'occasion de passer très vite et toujours regretté de ne pas passer plus de temps dans cette ville magnifique. Donc moi, je suis de Marseille, vous l'avez compris. Je suis provençal, plutôt. J'habite maintenant dans les Alpes-de-Provence. Et sauf que je ne connais pas cette ville, mais j'y ai quelques amis, grâce à mes recherches. Et Cécile Révauger donc, a bien accepté de faire cette introduction. Et je vois d'autres amis que j'ai rencontrés aussi dans le cadre de ces recherches. Je pense à Christine qui est là, Christine Chivalon, anthropologue, une grande spécialiste de la notion de diaspora noire. Et j'avais d'autres amis aussi qui étaient là. Enfin, Bordeaux est une ville importante pour moi parce que beaucoup de mes recherches se sont retrouvées ici. Alors j'aimerais aujourd'hui commencer à mieux connaître cette ville et ses habitants et tous ses amis que je connais. Voilà, c'est la première fois que je rencontre Cécile ce soir. Et j'en suis d'autant plus honoré que les recherches, celles de Cécile, celles de Christine, m'ont énormément aidé dans ce contexte-là. Parce que effectivement, je suis musicien, je suis autodidacte. J'ai beau avoir intégré, comme l'a dit Cécile, le HESS, je n'ai toujours pas mon bac. J'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire, vraiment, c'est moins qu'on puisse dire, autodidacte au saxophone et un peu perdu dans la nature au niveau de la scolarité. Et si j'ai l'habitude de le dire, d'ailleurs, ça m'a permis d'une certaine manière de prendre beaucoup de temps pour faire ces recherches-là aussi, pour étudier, pour faire de la musique. C'était à 15 ans, j'ai quitté le lycée quand j'en avais 16, et à partir de là, j'ai travaillé à peu près 10 heures par jour mon saxophone. Et après, ça a été aussi l'occasion de découvrir beaucoup de choses, j'y reviendrai. Mais en fait, j'ai eu besoin à un moment donné, quand j'ai commencé à décider de faire ces recherches, j'ai eu besoin d'ouvrages de référence, et parmi les deux grands ouvrages de référence, il y a celui de Cécile, qu'elle vous présentera d'ailleurs la semaine prochaine. Et j'en profite pour le dire, il y a celui de Christine aussi. On en a parlé il y a quelques temps quand on s'était vu à Paris sur la notion de diaspora noire. C'est des choses qui, pour un autodidacte comme moi, on a la chance de vivre dans un pays laïque, on a aussi la chance de vivre dans un pays où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Et ils sont pas, c'est pas très connu. C'est des sujets qui ne sont pas connus, qui ne sont pas populaires. Ce n'est pas des choses dont on parle beaucoup en ce moment. Et pourtant, il y a énormément de choses passionnantes qui sont faites dans ce domaine et qui n'ont jamais, je ne pense pas que tu me contrediras, Cécile, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de se recouper avec le domaine de l'artistique et plus particulièrement le domaine de la musique. En fait, pourquoi Cécile est aujourd'hui là en train de présenter le travail d'un jazzman, ce qui peut paraître complètement incongru sur le papier, c'est qu'en fait, j'avais constaté au départ, en faisant quelques recherches sur cette musique, il y avait effectivement pas mal de grands jazzmen qui étaient francs-maçons. Bon. Et le seul livre qui existe encore en langue française, parce que je ne me suis pas tout de suite attaqué aux nombreux livres en anglais, mais qui sont parfois assez abscons sur le sujet, c'était celui de Cécile. Et en fait, il n'y avait rien qui recoupait le fait que ces jazzmen étaient des musiciens parmi les plus grands, et le fait qu'il y avait aussi une maçonnerie noire américaine, il n'y avait pas de lien entre ça. Alors le livre ne parle pas que de ça, mais c'est vrai que c'est la grande découverte de cette recherche-là. C'est la chose qui m'a le plus étonné, et ça m'a d'autant plus étonné de découvrir que même aux États-Unis, il n'y avait pas de recherche, à proprement parler, sur cette occurrence-là. En fait, le point de départ de cette recherche, c'est un constat de jeunes musiciens autodidactes et d'entomologistes ratés, enfin, ou frustrés, qui continue à aimer à chercher la petite bête. Je fais de la musique, donc je continue à essayer de la comprendre et à classifier un petit peu les choses. Et je constate quelque chose d'assez incroyable, c'est que tous les musiciens qui me touchent, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, une toute petite rectification, Coltrane, que je sache, n'était pas franc-maçon, mais il a grandi dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter la part de mysticisme de Coltrane sans raconter cette histoire de la maçonnerie, j'y reviendrai. Je constate que tous les musiciens qui me touchent profondément, alors je donne quelques mots au hasard, on en a cité quelques-uns, mais c'est aussi Lionel Hampton, c'est aussi Miles Davis, c'est Ornette Coleman, c'est Sidney Bechet, Louis Armstrong, tous ces musiciens témoignaient dans leurs interviews, dans leurs écrits, parce que finalement ils ont beaucoup écrit, ce qui était déjà assez antinomique avec l'image qu'on avait du jazzman, qui est un amuseur en quelque sorte, ils ont beaucoup témoigné de leur musique et ils ont tous exprimé une notion de spiritualité dans leur, d'une part dans leur racine, ce qui est normal. Parce que l'image d'Épinal du jazz, c'est quoi ? C'est en gros le musicien, là je parle et je me restreins dans le livre aux musiciens afro-américains, on y reviendra peut-être, mais pas pour des raisons évidemment d'essentialisme ou d'ignorance du reste, mais aussi parce que je ne me suis pas tout de suite lancé dans quelque chose qui ferait 3 volumes supplémentaires, parce que si on parle de spiritualité aux États-Unis, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, et extrêmement compliqué d'ailleurs aussi, et même assez dangereux parfois au niveau de, j'allais dire, idéologique, pas au sens politique du terme, mais quand même, on manipule les informations et des histoires qui sont extrêmement différentes. Si on se restreint au jazzman afro-américain, là on touche quelque chose qui recoupe à peu près tous les musiciens de toutes les périodes en fait concernées, c'est-à-dire on peut même aller au-delà du XXe siècle, aller au XIXe, vraiment avec les minstrels, avec tous les vaudevilles, tous ces spectacles-là qui n'ont pas le mot jazz au départ parce que le mot n'existait pas, mais qui sont quand même les racines de cette musique-là. Et de tout temps, il y a eu cette ambivalence et ce paradoxe extrêmement perturbant pour nous Français particulièrement, qui est que c'est une musique à la fois profane et en même temps sacrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, comme beaucoup de choses aux États-Unis d'ailleurs, il n'y a pas réellement de différence entre les deux. Parce qu'en France particulièrement, on a tendance à présenter les choses de la manière suivante. Un musicien enfant s'éduque musicalement à l'église, et puis à partir du moment où il devient un adulte ou un jeune adulte, il oublie ça et il va jouer dans les boîtes de nuit, dans les bordels, disons le mot. Vous ouvrez n'importe quelle histoire du jazz, particulièrement en France, on vous dira que le jazz est né à Storyville, à la Nouvelle-Orléans. Storyville est dans le quartier des maisons closes de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Et donc, on aura beaucoup de mal à considérer le reste. en dehors de ce petit phénomène, de ce phénomène éducatif qui est réel, qui est la musique est encore enseignée aux États-Unis essentiellement à travers l'Église. Donc le premier contact d'un Américain avec la musique et l'apprentissage de la musique, ce ne se fait non pas au conservatoire comme ici, mais à l'Église. Donc ça, évidemment, ça c'est acté, mais au-delà de cela, le fait que beaucoup de musiciens que je vous ai cités, et parmi les plus récents comme Steve Coleman ou John Coltrane justement, expriment dans leurs témoignages et dans leur musique le fait que cette musique-là a une dimension spirituelle très très forte est quelque chose d'extrêmement perturbant justement pour l'historien, l'amateur, le journaliste français. Et moi, quand j'ai commencé à constater ça, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à interroger justement des spécialistes, des historiens du jazz, des journalistes. Et je me rappelle très bien, dès que quand j'ai commencé à faire cette recherche-là, j'ai un ami journaliste avec qui j'en parlais et qui m'a dit « Ah non mais Raphaël, de toute façon c'est un sujet... tous les Américains, dès que tu leur demandes quelque chose, ils te parlent de Dieu, de l'Égypte ancienne et tout ça. De toute façon, ces Américains sont complètement délirants. Regarde, récemment, j'ai fait une interview de Rosel Ruud. Rosel Ruud, c'est un très grand tromboniste de free jazz new-yorkais. Et quand je lui ai demandé d'où venait sa technique de trombone, il m'a répondu « Ah, mais vous savez, moi, je joue la musique que Pythagore a créée il y a 4000 ans. » Et là, il était mort de rire, l'ami journaliste. Il dit, ah, mais ces Américains, vraiment, décidément, ils ne sont pas sérieux. Et d'ailleurs, Raphaël, j'ai caviardé. Je dis, comment ça, t'as caviardé? Ah, ben, je n'ai pas mis ça dans l'interview. Qui s'intéresse? Puis, c'est n'importe quoi. Mais j'ai dit, mais tu l'as fait souvent, ça, quand même? Ah, bah oui, parce que je te garantis, Raphaël, que quel que soit le contexte, dès que tu parles avec un musicien américain, soit il remercie Dieu toutes les deux phrases de lui avoir donné le don. Et dans certains cas, le don, je pense que. C'est même Kenny G, je ne sais pas si vous connaissez Kenny G, c'est vraiment le smooth jazz, le jazz très commercial et assez, assez pleurnichard qui est extrêmement vendeur aux États-Unis. Dans tous ses albums, tous ses interviews, il remercie Dieu pour le talent qu'il lui a donné. Je pense que Dieu n'en demandait pas tant en l'occurrence. Alors quand c'est Coltrane, évidemment, c'est peut-être plus gratifiant et ça l'est puisque Coltrane a quand même, on connaît Love Supreme, j'y reviendrai, hein, c'est vraiment l'album du témoignage mystique de Coltrane, mais toute l'œuvre de Coltrane pendant ces 10 dernières années de sa vie témoigne de cette expérience mystique. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans. Je dis, mais attends, tu as caviardé beaucoup de choses. Ah bah oui, en fait, au bout d'un moment dans la discussion, j'ai compris que surtout, pourquoi il caviardait, c'est qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que Pythagore vient faire dans la discussion avec un tromboniste de free jazz new-yorkais qui a commencé dans les années 60? C'est complètement aberrant. Et là, je me suis dit, mais tiens, ça explique peut-être pourquoi dans l'Art Ensemble de Chicago, qui est un des grands groupes de free jazz des années 60, qui a d'ailleurs commencé en France. Et moi, j'ai la chance, tu le rappelais, Cécile, je jouais avec Archie Shepp, et dans l'orchestre Archie Shepp, il y a Famoudou Donmoye, qui est le batteur de l'Art Ensemble de Chicago. Et encore maintenant, il habite à Marseille, il s'habite toujours entre sa tenue vestimentaire en concert, entre le griot et le pharaon de l'Égypte ancienne. Parce que selon eux, Lester Bowie, qui était trompettiste, le disait très clairement, il dit « Nous jouons une musique qui a été créée il y a 5000 ans par les Égyptiens. Le jazz est une invention africaine et égyptienne. »
C'est le point commun avec la maçonnerie.
Alors c'est le grand point commun, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs dans l'ouvrage de Cécile. Et justement, c'était intéressant et ça m'a permis de comprendre ce qui est de l'ordre de l'afrocentrisme. Vous savez, cette idée très forte aux États-Unis, mais qui a intellectuellement explosé dans les années 80, mais qui en fait existe depuis près de 200 ans dans la maçonnerie noire américaine et chez les musiciens de jazz dès les années 20, enfin de façon assez, assez précise, c'est qu'en gros, on nous a menti, je résume, hein, on nous a menti, vous, les Blancs, vous êtes les soi-disant les civilisateurs, et vous nous rappelez assez souvent les origines grecques de la civilisation occidentale. Allez aux États-Unis, vous voyagez entre Athènes, Delphes, Philadelphie, hein, c'est des noms grecs, et des temples grecs dans toutes les villes américaines. Bah, beaucoup d'intellectuels, à commencer d'ailleurs comme Martin Delany, ou des gens comme ça, même Prinzhorn lui-même, hein, d'une certaine manière, ont, à travers la maçonnerie, exprimé le fait de dire « Attendez, mais la première grande civilisation, c'est l'Égypte, et que l'on sache, elle est africaine. » Puis en plus, vous savez, nous avez menti, historiquement, nous avez menti, parce que ils étaient sans doute noirs. Donc il y a une réappropriation mythologique, hein, fantasmée de l'histoire, mais qui est très importante pour comprendre aussi, quand Duke Ellington fait Menelik, The Lion of Judah, qui est un des grands thèmes de la période jungle. Il parle du fils de Menelik, c'est le roi, le premier roi, grand roi éthiopien, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, deux personnages de la mythologie maçonnique très importants aux États-Unis. Ben voilà. Alors c'est d'ailleurs assez étonnant, et d'ailleurs Cécile, tu le rappelles dans ton livre, c'est que finalement, ce rituel maçonnique a inspiré l'afrocentrisme chez les Noirs américains, mais d'une certaine manière, il a aussi inspiré le Ku Klux Klan chez les racialistes blancs américains, ce qui est complètement paradoxal. Le même rite, d'ailleurs, la même tradition symbolique va donner des choses complètement différentes aux États-Unis. Alors, je reviens à cette idée qu'en France, particulièrement en France, mais d'une autre manière aussi aux États-Unis, ce sujet du spirituel était en fait totalement méconnu, voire laissé de côté parce que d'abord, et j'insiste là-dessus, on ne le comprenait pas. C'est pas du religieux, comme c'est pas la lutte de l'Église contre l'État, comme tu le disais. Hein, c'est pas l'Église catholique contre la laïcité. D'ailleurs, les États-Unis sont un autre pays de la laïcité. C'est pas la même qu'ici, mais c'est d'une certaine manière la laïcité de la tolérance religieuse. Et d'ailleurs, il y a une multitude donc de dénominations, notamment protestantes, mais pas que, qui font cette diversité-là. Et de l'autre côté, je me rappelle, et ça a été aussi quelque chose qui m'avait énormément intrigué. Vous connaissez le grand dessinateur ciné, grand caricaturiste, polémiste, qui a même, en partant de Charlie Hebdo, a créé son propre mensuel qui s'appelle Ciné Hebdo, qui est vraiment un des grands amateurs de jazz en France. Et d'ailleurs, il a fait des livres, je pense que vous les avez ici à Mola. Je ne doute pas une seule seconde qu'à Mola, vous trouviez les disques, les livres sur le jazz de ciné. C'est un grand amateur de jazz. D'ailleurs, pour lui, le jazz, c'est la musique du sexe. Et on ne lui donnera pas de tort. Hein. Alors, tous les dessins dessinés sur le jazz sont extrêmement explicites là-dessus, beaucoup plus que la Beginning to See the Light. Et donc, dans son cas, lui qui a connu les États-Unis dans les années 60, qui a rencontré Malcolm X, dans deux interviews, il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, mais vous savez, Malcolm X n'était pas musulman, puisqu'il était socialiste. Socialiste au sens américain, ça veut dire communiste, en gros. Et c'est vrai, il était tiers-mondiste d'une certaine manière, puisqu'il a fait pas mal de congrès, notamment panafricains et tout ça. Dans la tête, dans l'imaginaire d'un militant politique français progressiste, on va dire, on ne peut pas être progressiste et religieux. C'est pas possible. Donc, Malcolm X n'était pas musulman. Vous allez à Harlem, vous pouvez visiter les deux mosquées, enfin visiter, vous passerez devant, hein, les deux mosquées de Malcolm X, la mosquée numéro 5 qui est celle de sa période de Nation of Islam, et la mosquée El Shabazz, qu'il a créée après avoir quitté Nation of Islam, et qui d'ailleurs il s'est sans doute fait assassiner en grande partie à cause de ça. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui n'était pas musulman, il a quand même créé deux mosquées. Et là, il y avait un truc qui était vraiment assez, enfin, quelque chose d'assez révélateur sur l'incompréhension qu'on pouvait avoir, nous Français, vis-à-vis de ce qui est l'imaginaire de l'artiste. Et pourquoi, et c'est le but de ce livre, en fait, je le dis au début, hein, je dis, en fait, ce livre... Pour moi, c'est simplement écouter l'artiste, écouter ce qu'il a à dire et le comprendre, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. C'est-à-dire, en parlant de musulman, ben, je me passe un chapitre à comprendre pourquoi beaucoup de bebopers, c'est la période juste après l'après-guerre, et ça répond d'ailleurs pas mal, ça fait le miroir avec ce qui s'est passé avec la maçonnerie quelques décennies auparavant, pourquoi énormément de bebopers, c'est-à-dire ceux qui ont inventé le jazz moderne, se sont convertis à l'islam dans les années 40 et 50. Et d'ailleurs, là aussi, même incompréhension de la part des historiens américains comme français d'ailleurs. Là, en l'occurrence, ah ben vous comprenez, les choses se radicalisent, donc tous les musiciens noirs américains vont se tourner vers Malcolm X, Elijah Muhammad, plus tard Louis Farrakhan, c'est-à-dire les grands leaders de Nation of Islam qui ont un islam totalement hétérodoxe, voire hérétique. Je pense que n'importe quel fondamentalisme sunnite ou chiite verrait les préceptes de Nation of Islam s'arracherait les cheveux immédiatement. Mais c'est un islam noir américain, extrêmement radical, qui pendant tout un temps d'ailleurs a milité pour la séparation, même géographique, hein, du pays, d'une certaine manière, entre noir et blanc. Et évidemment, pour tous les historiens, c'est allé de soi que ces centaines et ces centaines de bebopers et de musiciens de jazz, les plus connus, vous les connaissez, c'est Ahmad Jamal qui continue à jouer ici très régulièrement, Youssef Latif qui nous a quittés il y a quelques mois. Art Blakey, qui avait un nom musulman, Kenny Clarke, qui avait un nom musulman et qui était maçon. C'est un des rares, d'ailleurs, à avoir les deux casquettes, si j'ose dire. Voilà. En fait, il y a des centaines de musiciens de l'époque du bop qui se convertissent à l'islam. Et pour les historiens, c'est une évidence qu'ils se sont convertis à l'islam pour des raisons politiques. Et en fait, pas du tout. La plupart, l'immense majorité de ces musiciens se convertissent à l'ahmadisme, qui est un mouvement islamique qui n'a rien à voir avec Nation of Islam, qui est d'ailleurs un islam universaliste, antiraciste, d'une certaine manière, qui a énormément eu de succès auprès des Afro-Américains parce que c'est un islam tout aussi hétérodoxe d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, les Ahmadis sont persécutés dans tout le monde musulman. Ils ont trouvé d'ailleurs aux États-Unis une sorte de terre d'accueil assez forte. Et puis c'est un islam qui est très messianique. En fait, pour le noir américain, pour le musicien noir américain, passer de l'église baptiste ou méthodiste à l'ahmadisme,
correspondait à la même notion de messianisme et de recherche du salut que vous, qui est très très fort dans l'église protestante, particulièrement nord-américaine. Et c'est assez étonnant de voir qu'en fait tous ces musiciens, d'ailleurs qu'on a accusés de radicalisme politique à cause de leur conversion islamique, n'avaient rien à voir avec ces mouvements radicaux. Justement, c'est autre chose. Et aussi pour une raison très pragmatique, c'est qu'aux États-Unis, dans les années 40, si vous étiez musulman, c'est que vous étiez arabe. Si vous étiez arabe, c'est que vous étiez blanc. Donc, si vous prouviez que vous étiez converti à l'islam, quelle que soit l'école islamique, l'école, vous voyez, islamique à laquelle vous vouliez vous convertir, vous obteniez un nom de baptême musulman. D'ailleurs, c'était assez intéressant au niveau symbolique. Vous changez votre nom, qui était un nom souvent issu de l'histoire de l'esclavage, et vous changez avec un nom qui n'avait plus aucun lien avec l'histoire de l'esclavage. Et en plus de ça, vous alliez à la préfecture ou à la mairie, vous dites « ça y est, je me suis converti à l'islam », et sur votre papier d'identité où la couleur de peau était notée, vous passiez de B à W, c'est-à-dire de black à white. C'est l'absurdité administrative qui faisait ce genre de situation que Dizzy Gillespie raconte avec beaucoup d'humour dans son autobiographie, et qui aussi permet, parce que n'oublions pas, on a beau être dans le pays du Ku Klux Klan, on est aussi dans le pays de la tolérance religieuse, mais c'est comme ça qu'un musicien de l'orchestre de Dizzy Gillespie, qui était musulman, pouvait aller dans le restaurant réservé aux Blancs, acheter de la nourriture pour tout l'orchestre. Le patron arrivait, « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. » Bien sûr que si, je m'appelle Mohamed El Shabazz, par exemple, je prends, et voilà, tenez, vous regardez d'ailleurs ma carte, ça le prouve. Et là, immédiatement, le restaurateur dit « Ah, veuillez m'excuser. » Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous commandez? Et ça, il y a des témoignages très forts là-dessus, comme d'ailleurs, d'une autre manière, avec la maçonnerie. J'ai recensé pas mal de témoignages où la maçonnerie vient, dans un contexte de ségrégation et d'oppression absolument terrifiant, W.C. Handy, un des inventeurs du blues, se fait sauver d'un lynchage organisé par des membres du Ku Klux Klan locaux dans le Mississippi en 1910. Mississippi 1910, vous voyez tout de suite dans quelle situation peut se retrouver un musicien noir qui est en tournée. Et bien en fait, il se fait sauver du lynchage par un fermier blanc, maçon, qui reconnaît en lui un maçon nord-américain. L'organisation maçonnique, comme l'a dit Cécile, est séparée. Mais malgré tout, la fraternité marche aussi dans ces cas-là, dans certains cas. Voilà. Alors ça, au-delà de l'anecdotique, en fait, on comprend, et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'imaginaire du musicien, l'imaginaire du jazzman et de l'artiste jazzman noir-américain est complètement tributaire de cette éducation religieuse, certes, mais elle continue de se développer à travers cet art musical qui va changer au cours de l'histoire. On passe d'une musique, je parle beaucoup de la Nouvelle-Orléans. Alors, comme l'a évoqué Cécile, la Nouvelle-Orléans, c'est le moment où cette histoire de fraternité, d'initiation et de religion se rencontre. Le jazz naît d'ailleurs à Nouvelle-Orléans aussi d'une rencontre spirituelle. Alors, c'est une ville catholique, c'est une ville française et espagnole pendant longtemps, c'est une ville catholique, la plupart des jazzmen d'ailleurs des débuts de jazz sont catholiques, ça on le sait pas forcément, mais ils sont aussi maçons, ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes à l'évêché local. Il y a énormément de témoignages dans les journaux de l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec un musicien qu'on doit enterrer, est-ce qu'on doit l'enterrer selon le rite catholique ou selon le rite maçonnique? Et je montre des photos d'ailleurs que j'ai trouvées à la Nouvelle-Orléans, aux archives de la Tulane University, où ils ont plusieurs dizaines de photos d'enterrements et de défilés maçonniques de musiciens très importants de la vie locale. Et puis c'est aussi la ville où il y a la présence du vaudou est forte, hein, donc des résurgences de religion et d'imaginaire spirituel africain. Et donc c'est ce mélange-là qui aussi spirituellement crée cette musique, avec aussi quelque chose de très pragmatique, c'est que les temples maçonniques sont des lieux de location pour les concerts extrêmement abordables. Et puis, ça, Cécile l'a bien montré dans son livre, la maçonnerie nord-américaine est une des premières aides sociales créées pour les Noirs-américains, une des premières organisations qui font des hôpitaux. Bah, tout cela, il faut le financer. Pour le financer, on fait des concerts. Donc, en fait, les maçons sont les premiers employeurs des jazzmen pendant toute la période d'avant la Seconde Guerre mondiale. Encore maintenant, d'ailleurs, si vous allez à Nouvelle-Orléans ou à Chicago ou à New York, vous avez de fortes chances de voir les plus grands jazzmen dans des Masonic Halls qui ont été créés pour ces organisations et ces concerts bénéfiques, enfin de charité, on va dire, au sens large du terme. Donc, en fait, ce qui était intéressant, parce qu'il n'existait strictement rien, c'est de comprendre de quoi il retournait à travers cette histoire. Par exemple, j'évoque aussi, évidemment, la place des églises protestantes, certaines moins connues que d'autres. On parle beaucoup du baptisme et des églises sanctifiées et spiritualistes aux États-Unis, avec les phénomènes de transe et tout ça. Là aussi, manque de peau, beaucoup de jazzman sont des méthodistes, comme Coltrane, justement. Méthodisme, au niveau religieux et musical, c'est quelque chose de très important, mais qui est beaucoup moins lié au phénomène de transe, mais qui, par contre, sont des pensées religieuses très politisées, très marquées par l'Underground Railroad, par exemple, qui est ce réseau qui a été organisé aux États-Unis pour extirper les esclaves fugitifs et les amener dans des territoires moins du nord, au nord, et d'ailleurs au Canada aussi, en grande partie, c'est-à-dire là où ils n'étaient plus persécutés en tant qu'esclaves, en tant que noirs. D'ailleurs, l'Underground Railroad est organisé en grande partie par des pasteurs méthodistes et des maçons de Prince Hall. D'ailleurs, souvent les deux, il y a des grandes figures d'évêques méthodistes qui sont aussi maçons. Et Coltrane, par exemple, puisqu'on en parle, qui n'était, à mon avis, qui n'était pas maçon, qui n'était pas plus musulman, mais dans les deux cas, les musulmans et les maçons ont toujours cherché à en faire un des leurs, parce que c'est quand même une figure très importante, mais il a rendu hommage à son grand-père, qui était un pasteur méthodiste, qui était un des organisateurs de l'Underground Railroad à l'époque, en Caroline du Nord. Et vous voyez, toute cette histoire est aussi une histoire d'idées, de militantisme, qui est très, 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 très fort, qu'on retrouve dès le départ de la création de ce qu'on appelle parfois musique noire. Alors c'est une vraie question qui se pose, s'il y a une musique noire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une musique blanche. C'est quoi la musique blanche ? Alors on me répond la country, mais manque de peau, la country est une musique noire en fait, parce que quand vous voyez l'histoire de la country, du bluegrass et tout ça, c'est une musique qui est créée par la rencontre entre des musiciens d'origine africaine et des musiciens d'origine écossaise, celte et tout ça, et dans lequel d'ailleurs l'église et le spirituel ont un rôle à jouer aussi très important. D'ailleurs même à un niveau maçonnique, je le dis dans le livre, la plupart des grands musiciens de country et du premier rock sont des francs-maçons aussi. Même Johnny Cash a voulu y appartenir, sauf qu'on lui a interdit à cause de ses petits problèmes d'addiction, on va dire. Mais tous les grands musiciens de Nashville étaient aussi maçons. D'ailleurs, je le dis d'ailleurs dans le livre, et ça a été l'objet même d'un disque que j'ai fait sur entre Mozart et Ellington, pour les mêmes raisons aussi professionnelles qu'à l'époque de Mozart. Vous savez, à l'époque de Mozart, beaucoup de musiciens classiques étaient maçons parce qu'on tournait dans une Europe avec beaucoup de frontières, beaucoup de conflits. C'était une excellente, d'une certaine manière, une excellente carte de visite. Aux États-Unis, un jazzman moyen dans les années 30 fait à peu près 800 km par jour d'un point à un autre pour aller à un concert. Il va se retrouver dans le Dakota du Nord où il n'a jamais foutu les pieds. Il rate son bus, les copains sont partis. Il y a pas mal de témoignages comme ça. Il reste dans une ville qu'il ne connaît pas. Bah voilà, il sait qu'il peut compter sur ça. Il y a même un témoignage qui est assez étonnant de Miltinton, qui est un des grands contrebassistes de l'époque, qui est le contrebassiste de Cab Calloway. Et il raconte dans son autobiographie, et il photographie d'ailleurs, il se photographie avec Cab Calloway en tablier maçonnique. Il raconte en fait que l'orchestre de Cab Calloway, vous connaissez tous Cab Calloway, c'est la grande star d'avant-guerre, hein. C'est vraiment l'équivalent d'Elvis Presley 10 ans auparavant, au niveau popularité. Mais en fait, l'orchestre de Cab Calloway fonctionnait avec une loge de musiciens. Et Miltinton dit, bah oui, c'est pour une raison d'ailleurs au départ toute bête, c'est que c'était un excellent moyen de s'éduquer. On faisait des commentaires dirigés de la Bible, parce que c'est une maçonnerie qui est très religieuse, très biblique, hein, d'une certaine manière. Et en fait, grâce à cela, on se crée un contexte, une éducation qui nous était interdite en tant que musicien et en tant que noir. Alors les deux en même temps, enfin, être musicien et noir dans les années 20, c'est accumuler les handicaps, comme le disait d'ailleurs Sammy Davis Jr. quand on lui posait la question au golf, quel est votre handicap, et qui répondait, vous savez, je suis juif, noir, chanteur et borgne, et vous me demandez quel est mon handicap. Mais quand on est musicien et noir dans les années 20, c'est quelque chose, c'est en fait les deux chose les plus mal aimées de la société à cette époque-là. Et bien justement, Miltinton raconte, ben oui, être maçon et avoir cette appartenance-là, qu'on coupe d'ailleurs avec une appartenance religieuse aussi, hein. On peut être maçon et musulman, dans le cas de Kenny Clark, on peut être maçon et méthodiste ou baptiste ou bouddhiste, dans certains cas, puisqu'il y a beaucoup aussi de jazzmen qui se convertissent au bouddhisme à partir des années 50 et 60. On a quand même un bagage spirituel, intellectuel, puisque, contrairement à ce qu'on imagine en France, ce n'est pas incompatible, loin de là. Au contraire, on s'éduque politiquement, intellectuellement, grâce à ce contexte spirituel au sens large. Eh bien, voilà, on se crée notre propre éducation. Et c'est comme ça, d'ailleurs, la vraie incompréhension qui a lieu durant toute l'histoire du jazz en France entre le journaliste ou l'historien et le musicien est liée à ça. quand les premiers musiciens nord-américains arrivent en 1918, les troupes américaines, après avec les revues qu'on appelait les revues nègres, comme Ciné Bécher avec Josephine Baker, par exemple. C'est un bon exemple, Josephine Baker. Si je vous dis Josephine Baker, vous avez l'image tout de suite des bananes autour de la taille et tout ça. Mais c'était une femme extraordinaire, grande intellectuelle, d'une certaine manière, une grande militante aussi. Pour elle, ça ne posait aucun problème. Et dans les interviews, que ce soit avec Josephine Baker, mais plus tard avec Albert Ehler, avec Coltrane, où il y a une vraie incompréhension politique et spirituelle entre notre monde et le leur. On essaye, dans les années 60, surtout en 68, de faire dire des choses aux musiciens noirs américains. Vous êtes les fers de lance de la révolution en marche. Regardez, le monde est en train de se révolter. Vous êtes l'illustration musicale de cela. Et Coltrane et Albert Ehler répondent, nous, on est surtout, on essaye modestement d'être l'illustration de la beauté du monde. C'est les réponses qu'ils donnent dans ces cas-là. Alors que le journaliste en face, qui est pétri, on va dire, de marxisme très, très, très fort et très à la mode à ce moment-là, essaye de lui faire dire des choses qu'en fait, le musicien ne vit pas que d'un point de vue politique, en tout cas. Il vit aussi avec sa spiritualité. On a exactement ça dans les années 20, quand tous les intellectuels, comme Cocteau, comme aussi Walter Benjamin, qui d'ailleurs se déteste d'aimer le jazz, il dit « Pourquoi, moi, j'ai envie de danser sur cette musique, qui est quand même une musique de divertissement la moins noble qui soit ?» Tous ces grands intellectuels, tous les surréalistes vont voir les jazzman comme étant vraiment, c'est le retour du sauvage, c'est le retour de la sauvagerie qui vient démolir l'idéal bourgeois occidental. Manque de peau, ils sont en costume trois pièces, ils lisent, c'est des grands intellectuels. Parler à Duke Ellington dans les années 30 était un choc pour tous ces musiciens. Et puis c'est des gens qui se sont éduqués, certes d'une manière assez bizarre, au regard des canons de l'université ou de l'intellectualisme français, mais quand même qui sont des musiciens éduqués, des artistes éduqués. Et en fait, il y a toujours eu cette incompréhension, il y a toujours eu ce malentendu qui fait que d'ailleurs cette histoire a été finalement, non pas de façon voulue, mais assez occultée. Et c'est comme ça que vous ne trouvez pas d'informations ou de recherches sur ces aspects-là. Et c'est ce que j'ai voulu modestement rétablir sans renier. Peut-être que certains d'entre vous connaissent des livres comme Free Jazz Black Power, qui est un des grands livres sur le jazz et l'aspect politique du jazz, qui a été écrit en 72, donc 4 ans après 68, par deux journalistes français, et qui mettent énormément en avant l'aspect politique. Et ils disent d'ailleurs, oui, Coltrane avait l'air un peu religieux, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, en l'occurrence, mais après tout, il était fils et petit-fils de pasteur, les chats font pas des chiens. J'exagère à peine, et du reste, je fais une parenthèse, c'est le seul livre français de l'époque qui parle de Prince Hall, d'ailleurs. Parce qu'il parle de Prince Hall comme un des premiers militants politiques, ce qu'il a été d'ailleurs. Mais ils ne font pas du tout le lien avec toute cette histoire-là. Alors pour moi, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est d'autant plus intéressant et important que ça me permet de comprendre l'artiste. Et c'est pour ça que je me suis tenu, le dernier chapitre, à vraiment me concentrer sur Coltrane. John Coltrane, bon, c'est vraiment le musicien. Déjà, en tant que saxophoniste, c'est le Paganini du saxophone. Enfin, je veux dire, c'est le plus grand saxophoniste de l'histoire, techniquement. Et musicalement. Alors évidemment, ça se discute entre Charlie Parker, peut-être, éventuellement, mais quand même, au niveau de l'aspect global de son œuvre, c'est quand même le plus grand et le plus traumatisant pour n'importe quel saxophoniste qui se respecte. Je sais de quoi je parle. Voilà. Mais le gros problème, le gros caillou dans la chaussure, c'est qu'on a des titres d'œuvres qui, par exemple, The Holy Ghost, The Father, the Son and the Holy Ghost, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça mérite d'être clair aussi. Ça, c'est un titre de morceau d'une suite qui s'appelle Méditation. Love Supreme, en quatre parties, il y a un immense poème qui est un prêche, enfin, ni plus ni moins qu'un prêche, comme on pourrait l'entendre dans une église à New York. Enfin, on le supporterait d'ailleurs mieux dans une église à New York en anglais, pour notre part, que dans une église à Bordeaux, je ne sais pas, en français. D'ailleurs, parce que j'ai fait l'expérience, j'ai très souvent demandé à des comédiens de venir dire le texte de Coltrane en français, et les gens, on faisait ça avec le bac Coltrane, avec orgue et tout ça, et les gens venaient me voir, ils me disaient « Je ne savais pas que tu avais tourné... Tu étais converti au catholicisme. » Je dis, mais non, pas du tout. C'est juste redonner cette dimension-là, qu'on se remette dans le contexte dans lequel cette œuvre incroyable a été créée. On est en 64, on fête d'ailleurs les 50 ans de l'enregistrement de l'œuvre suprême. C'est un enregistrement qui dure 2 heures de studio. D'ailleurs, j'ai l'habitude d'appeler ça le Blair Witch Project du jazz. Le Blair Witch Project, c'est ce film qui a coûté 2 dollars et qui en a rapporté 100 millions, parce que ça a été tourné en 2 jours. Mais là, c'est pareil. Ça a été enregistré en 2 heures et ça a été vendu 500 000 exemplaires les premiers mois d'exploitation. Et ça continue encore maintenant, 50 ans après. Donc en fait, c'est le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire de la musique, en gros. Alors généralement, on dit oui, mais entre les Beatles qui en vendaient 10 millions, sauf les Beatles, ils passaient 4 mois de studio, les coûts n'étaient pas les mêmes. Et en plus, il vient avec un projet particulier, il dit, je vais raconter ma rencontre avec Dieu, parce qu'en fait, il a rencontré Dieu. Alors encore une fois, quand je dis ça, je sens un petit blanc dans les interventions. Il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire, de trouver ça ridicule ou pas, parce que d'ailleurs, très souvent, j'ai eu le cas dans beaucoup de conférences, de rencontres, oui, mais enfin, Raphaël, il était drogué, et puis il a vu Dieu quand il s'est débarrassé de la drogue, quand il s'est fait cold turkey. Cold turkey, c'est la dinde froide, c'est quand vous vous enfermez chez vous et vous attendez que ça passe. D'ailleurs, ça se passe mal, d'ailleurs, généralement, sauf chez Coltrane. Coltrane est entouré de sa famille, de ses femmes. Les femmes ont une importance dans la famille très, très importante, enfin, pour Coltrane, primordial, puisqu'il y avait sa cousine Marie, c'est un des titres de morceau, il y avait Naïma, un autre titre de morceau, et puis il y avait sa mère, bon, pour qui il n'a pas écrit de musique que je sache, je ne sais pas pourquoi. Et tout ont témoigné en disant, mais il n'a rien dit pendant une semaine, on ne l'a pas entendu, et au bout d'une semaine, il est sorti, il dit, ça y est, je me suis débarrassé de la drogue, et non seulement je me suis débarrassé, mais j'ai vu Dieu. Alors, n'importe quel addictologue vous dira, et c'est souvent ce qu'on m'a rapporté, vous savez, quand vous arrêtez de boire, vous voyez des éléphants roses. Si vous arrêtez l'héroïne, ce qui était le cas, il y a peut-être des chances de voir Dieu. Peu importe, ça a souvent été répondu. Hein. Mais c'est vrai en plus, c'est un fait. Sauf que chez Coltrane, il en a fait une œuvre musicale. Non seulement une œuvre musicale, mais aussi une œuvre littéraire, puisqu'il a écrit là-dessus. Il a écrit d'ailleurs ce poème. Et on sait maintenant d'ailleurs qu'il composait dans cette période-là, il composait en faisant des poèmes. C'est-à-dire que toutes les compositions de Coltrane de cette période, c'est-à-dire de 63 à peu près jusqu'à sa mort en 67, il est mort très jeune, hein, il est mort à 41 ans, sans doute d'ailleurs des suites de sa consommation, même s'il avait arrêté, ça avait fait assez de dégâts pour qu'il meure 10 ans après s'être débarrassé de la drogue. Toutes les compositions sont écrites avec des textes, de la poésie, et témoignent toutes d'une dimension, si ce n'est spirituelle, moi je dis mystique. C'est pour moi le seul vrai mystique de l'histoire du jazz, puisqu'il a vu Dieu et qu'il essaye de le raconter. Voir Dieu et essayer de le raconter, c'est raconter l'irracontable. On ne raconte pas sa rencontre avec Dieu, sauf que la grosse différence entre le prophète et le mystique, c'est que le mystique a fait l'expérience de cela et essaye de le raconter à travers la musique et à travers aussi le texte et la poésie. C'est d'ailleurs les deux domaines dans lesquels cette expérience-là peut être racontée. De tout temps, ça a été celle-là. Donc à partir de là, c'est intéressant pour moi d'analyser l'œuvre de Coltrane de ce point de vue-là et de montrer qu'en fait Coltrane est le résultat de toute cette histoire qu'on a racontée, que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Alors peut-être pour illustrer un petit peu mes propos, je voudrais juste vous jouer deux, trois mélodies. La première, c'est justement une marche funèbre de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, c'est le début, c'est là où ces choses se passent. Marches funèbres qui sont très souvent organisées par les sociétés fraternelles comme les Old Fellows dont tu parlais tout à l'heure, les maçons, et beaucoup de sociétés fraternelles qui existent à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est le moment où, en fait, dans les marches funèbres, vous partez au cimetière avec le défunt, c'est une musique très triste, c'est celle que je vais vous jouer, et on met le corps en terre, et quand on revient, la musique est par contre très joyeuse, et là, il y a des milliers de personnes qui peuvent participer aux festivités, ce qu'on appelle à la Nouvelle-Orléans, encore maintenant, ça existe, c'est très fort encore, les second line. On pourrait traduire ça, les seconds couteaux, c'est un peu péjoratif, parce que quand vous le voyez, c'est loin d'être aussi péjoratif, justement. Donc là, je vais vous jouer ça. Justement, j'aimerais vous jouer I'm Beginning to See the Light rapidement pour avoir cette mélodie qui n'est pas maçonnique dans la tête. Et puis terminer avec une petite mélodie de Coltrane, enfin une mélodie, une composition de Coltrane qui s'appelle Psalm, qui est le quatrième mouvement, justement, de la suite A Love Supreme. Et d'ailleurs, vous verrez qu'entre le premier morceau que je vais vous jouer et celui-là, en fait, c'est quasiment la même chose. Thank you. Je suis quand même, je suis très honoré hein, parce que commencer avec Cécile et être avec Christine en même temps, le même jour à Bordeaux, je suis très très honoré.
c'est admirable ton parcours d'autodidacte à tout point de vue, autant dans la musique que dans la science, on pourrait dire, les sciences humaines. Ton ouvrage, il est digne, moi je dis que c'est une thèse. Ça serait digne, alors tu dis que tu n'as pas le bac, que ça n'a pas donné lieu à la validation d'un master ou quoi que ce soit, mais c'est digne d'un travail de chercheur. Et puis, bon, moi, ce que je trouve, ce que j'ai apprécié énormément, enfin, ton positionnement, j'apprécie énormément parce que je suis un peu familière, non pas du jazz, mais de ce qui se dit sur le jazz. Et on a tendance à vouloir voir le jazz comme une expression universelle qui oublie la singularité historique d'où ça vient. Et tu affrontes cette question. Tu dis, tu parles bien de la condition noire. Tu ne vas pas dire musique noire pour éviter. C'est un bel évitement. Comme ça, tu ne rentres pas trop dans le débat. Mais tu restitues. Tu recontextualises ce jazz en tant que musique effectivement née d'une condition particulière qui est celle de l'esclavage, qui est celle de la diaspora donc noire, qui est celle du transbordement des Africains aux Amériques. Et moi, ça m'évoque. Alors, il y a une autre musique. Je t'écoutais, je me dis, mais pourquoi le jazz ? Le jazz, il y a un tel débat, une polarisation. Le jazz doit être universel. C'est une musique qui ne doit pas être qualifiée de noire. Mmh. Et moi, je compare avec la Jamaïque et le reggae. Ben alors là, on s'en moque. Hein. Le reggae, il reste jamaïcain. On n'en a rien à faire. On ne veut pas l'universaliser alors qu'il est aussi universalisé. Alors la grosse différence, ce que nous dit le mouvement Rastafari qui est animé par... aussi la musique et le jazz, il y a énormément de connexions et de comparaisons. Ce sont des expressions culturelles de cette fameuse diaspora et que certains appellent une contre-culture de la modernité. Hein, c'est Gilroy, Paul Gilroy, mmh. hein, dans la Black Atlantic. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est ce que tu nous décris, c'est cette porosité. C'est-à-dire que la modernité, c'est quelque chose, c'est un projet qui va saucissonner en catégories, hein, qui va, alors bon, là, le mot saucissonner peut paraître galvauder la modernité, mais la modernité est une pensée de la classification. Et une pensée, il faut que les choses soient étanches. La musique ne peut pas être spirituelle. La musique ne peut pas être religieuse. Le politique ne doit pas être religieux, tu l'as très bien dit. Écrit. Or, la diaspora noire, c'est un monde qui est né dans la contradiction de la modernité. La modernité était le progrès, sauf que les Noirs ont incarné, sont nés avec le projet de la modernité. La modernité s'est bâtie aux États-Unis, les premières, ce que Achille Mbembe appelle les démocraties raciales et les démocraties esclavagistes. Et c'est contradictoire avec la modernité. Le progrès est né de la barbarie, de l'esclavage. Et au plus près donc, de cette barbarie, il y a le peuple noir. Et le peuple noir, pour moi, peuple au pluriel ou les peuples, comprennent ces contradictions. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension de ces contradictions. Et c'est ce qui fait ces créations, qui sont extrêmement des créations de la porosité. Et je vais être brève et terminer là-dessus. Dans le jazz... Alors, si on veut comparer avec le mouvement Rastafari, le mouvement Rastafari, il porte un niveau, c'est plutôt dans le message religieux que ça va se dire, ce niveau, d'après moi, qui est une métaphore de ce monde noir, né de cette violence et de cette contradiction, de cet immense paradoxe, le fait que l'autorité, on ne la veut plus, on n'en veut plus du pouvoir. On veut déconstruire ce pouvoir et le mouvement Rasta va l'exprimer par ce qu'on appelle l'épistémologie du I and I, c'est-à-dire que le jeu... I and I, je et je, qui se trouve, qui fait le nous. Le nous n'est jamais quelque chose de constitué, n'est jamais fait système, et on le retrouve donc dans le nous est toujours la somme de deux individualités. Et dans le jazz, moi je trouve, alors ce qui est différent, c'est que le reggae n'est pas de l'impro. Et le jazz, lui, c'est l'absence, enfin pour moi, c'est l'improvisation qui vient dire ce même message. Mmh. C'est-à-dire cette créativité où l'autorité, elle est diluée en fait, elle est diluée et on va improviser. C'est la musique qui va venir dire ce refus du système, peut-être de Babylone, j'exagère, mais enfin, ça passe par le même prisme qui me semble être cette contre-culture de l'ordre, et parce que c'est à la fois la porosité, elle est spirituelle, tu le dis très bien, le politique, c'est impensable de le penser sans le religieux, mais c'est le politique aussi, la musique, le politique et le religieux qui sont tout le temps mêlés et entremêlés. Alors moi, pour entamer le débat, j'ai juste envie de, si je peux poser une question, c'est te demander... Bon, tu sais ma lecture de ton livre, hein, faut que je le, il faut sans, il faut, c'est un livre qui est quand même pointu, hein, il faut le lire. Hein. Moi, j'ai envie de juste te dire, et c'est une question de naïve, l'importance dans les débuts de la franc-maçonnerie, donc noire, hein, on est bien d'accord, est-ce que c'est au départ du jazz, est-ce que c'est la franc-maçonnerie pour le religieux qui irrigue complètement la création du jazz, où on a d'autres composantes religieuses. Que tu reviennes. Est-ce que c'est dominant la franc-maçonnerie au niveau spirituel?
Au niveau spirituel, c'est une excellente question. Je fais une toute petite parenthèse, mais il y a une magnifique exposition à Paris qui s'appelle Great Black Music. Mais c'est assez étonnant de voir comme le jazz est assez peu présent dans cette exposition.
Au rez-de-chaussée.
Et au rez-de-chaussée, oui, c'est comme dans les conservatoires. La classe de jazz est toujours au sous-sol. Et là, c'est un petit peu ça. Et quand France Culture a fait une semaine entière d'émissions sur l'exposition, il n'y a pas eu une seule émission sur le jazz. Comme quoi, c'est autant pour ceux qui aimeraient l'universaliser que pour ceux qui aimeraient le racialiser ou l'ethniciser. Localiser. C'est un vrai problème, en fait, cette musique-là. Et c'est, en fait, le livre parle beaucoup de ça. C'est qu'en fait, le jazz est un problème pour tout le monde. Je parle même, c'est la musique de la traîtrise, en fait. Ça trahit toujours. C'est la musique de la trahison, plutôt. Ça trahit toujours celui qui aimerait l'essentialiser, le résumer, tout ça. Il y a toujours un problème quelque part. En fait, le jazzman, c'est un petit peu le cas dans ce que tu exprimais sur le Rastafari, ou sur Rastafarisme, en tout cas. C'est quelque chose, c'est aussi l'insaisissable, c'est aussi créer un moteur créatif qui ne peut pas être résumé, qui ne peut pas, voilà, et c'est le propre même de cette musique. C'est pour ça qu'elle est si problématique. Notamment, on fait une exposition Great Black Music, ça va être beaucoup plus facile de parler de Bob Marley, de Fela,
que de parler de John Coltrane. Et les gens, d'ailleurs, on connaît bien les gens qui ont fait l'expo, hein, on les connaît, c'est des amis et tout ça. Ils disent, mais en fait, on s'est arraché les cheveux parce que comment on parle du jazz dans cette expo-là ? Et ils avaient plus de, d'ailleurs, ils avaient plus de facilité de parler d'Elvis Presley que de parler de Coltrane. Ce qui est assez logique, finalement, quand on y réfléchit. Donc, pour répondre à ta question, et ça, c'est, voilà, encore une fois, hein, je suis avec... Je suis bien entouré, c'est impressionnant. Cette maçonnerie-là, il ne s'agit pas non plus de la surestimer, hein. En tout cas, mais c'est juste de re-raconter son histoire et de la conceptualiser avec dans le domaine jazzistique. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis arrivé à un moment donné, en fait, dans la recherche, où il était plus facile de dire qui n'était pas maçon avant-guerre dans les grands noms du jazz que de dire ce qu'il était. Je donne la liste dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai commis, je le dis, parce que j'en profite que Cécile soit là, parce qu'elle a rétabli la vérité. Elle parle de Noble Sizzle, qui est un des grands vaudeville, un des grands compositeurs de vaudeville avec Hubie Blake, qui était maçon aussi. Je ne le mets pas dans le livre. J'ai dit, ah, tiens, prochaine édition, il faudra que je rajoute ça. En fait, et la liste continue d'être nourrie tout le temps. Si je donne la liste des noms, c'est Hubie Blake, Louis Hamilton, Count Basie, Duke Ellington, pas Louis Armstrong, on l'a dit. Hein, voilà. On peut même imaginer que des musiciens assez récents comme Albert Ehler, dont c'est toujours un peu la question, ou Steve Coleman, ou beaucoup de musiciens de la ACM comme Braxton et Moulay Richard Abrahams, ont fait partie de la maçonnerie. Donc ce qui était la question, c'était de savoir, c'est d'abord de constater, et je pense que Cécile en parlera très bien dans une semaine, mais en fait la maçonnerie c'est presque la première institution noire créée aux États-Unis pour les noirs, enfin qui est... C'est les maçons de Prinsol qui créent l'église méthodiste et non pas l'inverse, on pourrait presque le dire comme ça. Donc il y a quand même déjà presque une primauté de cette pensée-là, qu'on pourrait d'ailleurs, moi je le mets, j'aime bien faire des dessins, c'est mon côté encore entomologiste quand je faisais j'allais chercher les papillons, je faisais des dessins de tout ça. J'ai fait un dessin en trois parties. C'est-à-dire, il y a trois domaines du spirituel dans le jazz, il y a le domaine mystique, le domaine religieux et le domaine métaphysique. Puis il y a aussi un domaine initiatique. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'initiatique pour ces musiciens nord-américains et qui va avec le secret. Alors autant on peut trouver beaucoup de témoignages sur le fait d'être maçon, mais on ne dit jamais ce qui s'y passe. Et il y a une notion de secret qui est primordiale et qui explique beaucoup de choses sur l'aspect étrange de cette musique, justement, je trouve. Hein. Alors j'ai recoupé ça avec des textes des premiers, ce qu'on appelle l'Harlem Renaissance par exemple, vous savez, c'est ce mouvement d'écrivains noirs à Harlem, mais aussi d'auteurs plus récents comme Ishmael Reed, qui sont en fait des écrivains qui ont tenté d'écrire en tant qu'afro-américains de la même manière que ces jazzman et qui parlent en fait du secret, c'est-à-dire qu'on peut tout dire mais on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout raconter sur notre expérience et sur ce que l'on fait. Parce que le danger, c'est de se faire, en fait, tout simplement, soit arrêter, soit tuer. Au 19e, c'est le cas. Et puis après, symboliquement, il y a aussi la mort symbolique que représente. Alors, ça a été une grande question, je pense, pendant tout le mouvement des droits civiques. C'était la grande question entre Malcolm X et Martin Luther King, mais ça a été aussi la grande question entre les musiciens eux-mêmes, entre ceux qui avaient... Louis Armstrong a quand même toute sa vie été accusé d'onclotomisme. Vous savez, c'est d'être à la solde de l'industrie blanche et du pouvoir blanc en étant un petit peu, en faisant le rigolo. On oublie d'ailleurs qu'il a financé de grands mouvements des droits civiques. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait Archie Shepp, que je connais bien, qui était le militant. D'ailleurs, quand on lui posait la question, Archie Shepp lui dit « Vous croyez que vous aviez un dossier au FBI sur vous ?» Il répondait « Vous savez, même Louis Armstrong avait un dossier au FBI chez Hoover, donc moi, je pense que j'en avais un. » Donc on est dans ce contexte-là. Et pour moi, je dis pas que... Enfin, je pense pas, on peut pas dire que la maçonnerie est... Et au-dessus, et le mouvement primordial, mais le resituer et ne serait-ce que le raconter donne un éclairage complètement nouveau à cet imaginaire-là.
Oui, je crois qu'en fait, ce que je dirais quand même, c'est que bon, il y a franc-maçonnerie et franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie américaine est très différente de la franc-maçonnerie française pour cela. La religion, elle va presque de soi. Alors, comme elle va de soi. Je veux dire, c'est pas non plus une motivation, voilà, pour entrer en franc-maçonnerie, hein, pas du tout. Et je crois que pour tous ces jazzmen, quand même, ils vont en franc-maçonnerie pour des raisons de sociabilité, parce que c'est vrai qu'ils vont pouvoir se serrer les coudes, Alors, ce n'est pas non plus, je veux pas qu'on pense que c'est une franc-maçonnerie affairiste, etc. C'est pas du tout ce que je raconte, parce que, au contraire, ce sont des artistes qui ont besoin de soutien. Quand ils se lancent, c'est vrai, ils ont besoin de soutien. Ils sont en but, comme tu l'as très bien montré, à l'hostilité quand même de cette société qui est essentiellement blanche. Et ça, quand on lit les autobiographies de Duke Ellington ou de Armstrong, ils le racontent, ils disent quand même tout le mal qu'ils ont eu à s'imposer, à pénétrer ce milieu. Donc c'est vrai que de se retrouver en loge avec d'autres artistes, d'autres musiciens, et de pouvoir échanger leur expérience et se serrer les coudes, je crois que c'est ça, c'est la motivation. Et puis aussi, c'est vrai que la franc-maçonnerie a une image de respectabilité dans la franc-maçonnerie, dans la société américaine, beaucoup plus forte peut-être que, bon, enfin, je veux dire qu'en France, où c'est quand même très lié à la laïcité, cité à d'autres choses. Aux États-Unis, bon, c'est quand même une franc-maçonnerie, je veux dire, qui est aussi tout à fait dans le rang, hein, il faut bien dire ce qui est, hein, et donc qui est très respectable. Alors, faire partie d'une loge, eh bien, non seulement on ne va pas s'en cacher, mais on va le dire. Oui. Et ils le disent. Et c'est pour ça, justement, qu'on sait quand tel et un tel a été membre de telle loge. Donc voilà, honnêtement, je ne pense pas que la dimension spirituelle soit un facteur d'intégration pour ces artistes noirs d'une loge, parce qu'ils n'ont pas... Bon,
oui, puis ça va avec l'appartenance religieuse, très souvent. Hein, je veux dire, on est maçon et méthodiste, voilà. Maçon et baptiste, ou voire maçon et musulman dans certains cas. Merci beaucoup de votre écoute.